L'invité. L'invité. 30 minutes d'échange de découverte avec un personnage ou acteur de l'éducation. Initiation, création, innovation, invention, tout y est pour votre information sur les antennes de la web radio Éducation. L'invité, c'est le meilleur des rendez-vous radiophoniques en ligne.
Le premier reproche que les citoyens lambda font aux chercheurs et autres acteurs de la recherche, c'est de toujours faire des recherches sans avoir de résultats concrets. Faux, répondent les chercheurs quand ils vous montrent leurs prouesses. Face à ces constats, depuis quelques mois, le vent du changement souffle progressivement sur les universités nationales du Bénin depuis le vaste chantier de réforme entrepris par le gouvernement l'an dernier pour révéler les universités. C'est dans cette mouvance que de nouvelles équipes rectorales ont été nommées à la tête des dites universités après un long processus. À la fin du processus, les résultats ont abouti à la désignation du professeur Aliou Saïdou comme deuxième vice-recteur chargé de la recherche universitaire à l'Université d'Abomey-Calavi. Dans cette interview exclusive, le professeur titulaire des universités en sciences agronomiques, précisément spécialiste des sciences du sol, fait le tour de l'actualité et des réformes engagées dans le secteur de la recherche scientifique à l'UAC. Membre de l'équipe rectorale conduite par le professeur Félicien Avlessi, recteur de l'UAC, ce chancelier de l'Ordre national du Bénin lève un coin de voile sur les enjeux de gouvernance et de financement de la recherche pour les pays africains comme le Bénin. À bâton rompu, le professeur Aliou Saïdou répond à nos questions. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Invité. Installez-vous confortablement et retrouvez-nous juste après ceci. Professeur, comment se porte aujourd'hui la recherche scientifique à l'Université d'Abomey-Calavi?
Aujourd'hui, en termes de recherche, nous avons fait de grands pas. Et par rapport à ces grands pas, cela passe par les réformes au niveau de nos différentes écoles doctorales que nous avons entreprises avec l'implication de tous nos collègues. Et ils aussi ont vraiment apprécié cette grande réforme, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un schéma d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action. Et je pense que dans ce sens-là, toutes les écoles doctorales et également aussi les structures à la base du vice-rectorat ont approuvé cette initiative-là. Et les principales réformes également aussi vont dans le sens au niveau des laboratoires que nous sommes en train de redynamiser, de restructurer. Dans un passé très récent, on a eu à faire une étude sur ces laboratoires. On avait trouvé un nombre vraiment qui faisait peur, près de 125 laboratoires pour cette petite université. Donc nous sommes en train de faire des réformes là-dessus aussi. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a 4 universités publiques, dont 2 thématiques et puis 2 universités qui se chargent également aussi de la formation en général. Quand on parle de recherche aussi, cela prend en compte la promotion des enseignants. Je m'en vais vous dire que par rapport à la promotion des enseignants, nous avons de très bons résultats. De 2018 jusqu'à 2021, on a obtenu près de 408 promotions des enseignants pour les listes de CCI. Et en ce qui concerne le concours d'agrégation, et les résultats aussi sont très, très intéressants parce qu'on a pu, en ce qui concerne les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, près de 10 enseignants qui ont été promus au concours d'agrégation. Et pour la médecine, 9 enseignants. Vous savez, c'est pas du tout facile en ce qui concerne le concours d'agrégation. Et tout cela, ça montre réellement qu'il y a une intense activité de recherche au niveau de notre université, comparativement aux autres universités. Et c'est pas pour rien que les gens trouvent que l'UAC est l'université mère. Donc, en ce qui concerne également les projets de recherche, depuis 2018, nous avons financé près de 16 projets sur la base des appels à candidature dans le cadre de fonds compétitifs, et ça a permis à l'UAC d'injecter pour ces 4 années là près d'un milliard pour financer la recherche sur fonds propres. Et cela va nous permettre d'obtenir à la fin du programme. Normalement, la fin du programme, c'était prévu pour 2021, mais de façon sûre, en 2022, on doit boucler cette troisième phase du projet. Et cela nous permettra d'obtenir 3 fois 16, ça fait 48 docteurs que nous allons former et près de 148 étudiants en master recherche que nous allons financer également. Et à travers ce programme-là, cela a boosté l'inscription de nos différents enseignants sur les différentes listes du CAMES, surtout pour le CCI et consort. Tout ça, là, c'est là-bas des résultats de la recherche. Donc, par rapport à tout ce que je suis en train de développer, dans mon projet de gouvernance, j'avais prévu beaucoup d'actions, toujours dans la même direction, hein, par rapport aux résultats que nous avons obtenus, c'est de restructurer les laboratoires, et cela est déjà en cours. Sur les 125 laboratoires, présentement, nous sommes autour de 58, peut-être on va revenir là-dessus. Et nous avons prévu également aussi de faire une véritable réforme au niveau des écoles doctorales. C'est sûr que vous avez déjà les échos. La soutenance de thèse sont vraiment bien régulées maintenant. Et également aussi, la procédure des soutenances, on a essayé d'améliorer cela. Puis c'est ce que nous visons à travers ces soutenances. Puis nous-mêmes, on a des échos de l'extérieur sur la manière dont les thèses de doctorat se déroulent à l'université, également aussi la qualité de nos sujets. Ça a été vraiment des sujets d'intérêt pour nous. Et nous sommes en train de revoir tous ces dispositifs-là. Également aussi, mettre en place un véritable dispositif d'assurance qualité par rapport à ces différentes thèses qui doivent sortir de nos différentes écoles doctorales. Et ça fait son bonhomme de chemin. À partir du 1er mai prochain, toute thèse de doctorat qui doit être soutenue à l'Université d'Abomey-Calavi doit passer par le processus de la détection du plagiat. Et si vous dépassez le seuil de 20%, votre thèse est purement et simplement rejetée. Et ça aussi, ça fait partie des réformes que nous sommes en train d'entreprendre. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure au début de mon intervention que nous voulons accompagner aussi le gouvernement parce qu'on a toujours été critiqué par rapport à ça. Les gens nous accusent de ne pas savoir ce que nous faisons dans nos laboratoires. Et cette année, nous avons mis en place un véritable dispositif pour accompagner les laboratoires dans ce sens-là. Et par rapport à ça, il y a un grand programme sur la valorisation des résultats des laboratoires parce qu'on a beaucoup travaillé, on a sorti beaucoup de thèses, on a sorti beaucoup de mémoires, mais la plupart de ces documents, c'est dans les tiroirs, dans les publications. Et cela n'est pas à la portée des utilisateurs finaux que sont les populations et consorts. Nous venons de bénéficier de deux projets financés par l'AIF à travers un programme intitulé Variwa. Et ce programme, ça fait près de 400 000 € que l'AIF est en train de mettre à la disposition de l'UAC pour la valorisation des résultats. Et nous allons appuyer les laboratoires à travers les innovations technologiques développées et essayer de les valoriser, faire connaître ces innovations-là à la communauté. Et pour la suite, avec nos services de communication et consort, nous entrevoyons tourner un film sur les labos et également aussi une journée porte ouverte au niveau de nos différents laboratoires. Toutes ces actions-là, c'est pour mieux faire connaître ce que nous produisons dans nos laboratoires et également aussi montrer l'importance de nos laboratoires. Donc aujourd'hui à l'UAC, nos travaux de recherche ne se limitent plus aux thèses, publications, mais également aussi on veut aller au-delà. Pourquoi ne pas accompagner aussi les différents doctorants dans la création des start-up? Puis aujourd'hui, la question d'emploi se pose. Des étudiants de très bons résultats de recherche qui peuvent convertir et créer des start-up pour pouvoir s'auto-employer. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous voulons aller présentement avec la nouvelle équipe qui est en place. Également aussi en matière d'évolution de la recherche, nous sommes également aussi impliqués dans un grand programme que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est la mutualisation des équipements. Parce qu'il y a une fragmentation, l'environnement même au niveau de nos laboratoires, vraiment ça ne va pas. Vous allez trouver un petit appareil ici. Peut-être c'est dans un autre laboratoire, vous allez trouver un autre appareil. Maintenant, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer de grands espaces, de grands ensembles mutualisés qui va faciliter les travaux de recherche de nos différents doctorants. Également aussi, un aspect extrêmement important. On ne peut pas entreprendre tout cela sans les ressources humaines. Il faudrait qu'on nous aide à recruter aussi bien des techniciens dans les laboratoires et aussi des enseignants de qualité. Et ça, bon, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Nous espérons que le processus va vite aboutir pour qu'on puisse avoir ces ressources de qualité à la disposition aussi bien de la qualité de l'enseignement et également de la recherche. Bon, l'autre problème aussi qui agit sur la qualité de la recherche, c'est la mobilisation des ressources. Et tout ce que je viens de vous dire et aussi les différents résultats que je viens de présenter, cela est spécifiquement basé sur les initiatives personnelles de la plupart des collègues. Si vous êtes informé, il y a un collègue qui a gagné le premier prix de la CEDEA la dernière fois. Et nous pensons réaliser des clips pour la plupart de ses collègues à travers son le dispositif de désinfection lorsque on avait eu le cas de la COVID-19. Il y a plein d'autres collègues aussi qui, chaque fois, décrochent des prix à l'international. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IAC fait partie des universités vraiment dont les chercheurs décrochent assez de prix à l'international.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pour la visibilité des publications des chercheurs?
À l'université, nous avons une plateforme qu'on appelle BEC. C'est la plateforme de l'université pour la mise en ligne des différents articles scientifiques. Le principal problème que nous avons, quand les enseignants-chercheurs publient, ils ont la parole d'aller sur la plateforme pour l'insérer. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a d'autres plateformes. Bon, c'est des plateformes à l'échelle mondiale. Donc, l'université ne veut pas d'abroger la paternité, tel que ResearchGate, Academia et consorts. Si vous vous inscrivez sur ces différentes plateformes, aussitôt un article publié, si vous avez le DOI, automatiquement, lui va vous chercher l'article et vous le met au niveau de votre compte. Mais pour notre plateforme BEC, on n'a pas encore atteint cette performance-là. Mais aujourd'hui, selon les dernières statistiques qu'on a obtenues, on est à plus de 1100 publications, seulement pour la période 2018 à 2020, contrairement aux années antérieures. Bon, l'autre problème qu'on a par rapport à ça, on a des difficultés pour recenser avec exactitude tout ce qui sort comme production scientifique. Mais présentement, on a une équipe qui doit sillonner tous les laboratoires pour pouvoir nous aider à collecter toutes ces publications. Donc, l'effort que nous sommes en train de faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette plateforme que l'université a mis beaucoup d'argent et également aussi comment sensibiliser les enseignants pour que régulièrement, aussitôt une production scientifique sorte, qu'ils aillent sur la plateforme et la mettre. On a un petit moyen que nous utilisons pour les obliger à le faire. Lorsqu'il vient à faire le recensement des publications pour le paiement de la prime de publication, là, comme principal critère, c'est que tu dois aller sur la plateforme, renseigner et mettre en ligne toutes tes productions scientifiques avant que vous ne bénéficiez de ça. Donc voilà pratiquement ce que nous faisons comme politique. Et également aussi, nous les encourageons à s'inscrire sur la plateforme ResearchGate ou bien Academia ou d'autres. Au fait, l'inscription sur ces différentes plateformes, ça a un avantage. Parce que ça permet aux différents moteurs de recherche, surtout lorsqu'il s'agit de vérifier le plagiat, de vite détecter ces plagiats. Si vous ne mettez pas vos production scientifique en ligne, vous n'êtes pas connu. Les gens ne pourront même pas vous citer. Or, c'est à travers les taux de citation, les publications que vous mettez en ligne et le nom de vos universités, tout cela qui rentre dans le classement mondial des universités. Donc, il ne faudrait plus qu'on soit pratiquement des chercheurs maison, mais il faudrait qu'on s'ouvre à l'international aussi pour que les gens sachent et connaissent également tout ce que nous menons ici comme activité de recherche. Donc, voilà vraiment ce que je peux dire par rapport à ça, mais nous-mêmes, on sait que c'est un grand défi pour nous, pour qu'on puisse recenser réellement et rigoureusement tout ce qui sort comme publication chaque année. Mais les collègues travaillent. Et les principales entités qui ont un fort potentiel de publication, il y a la FSA, la FAST, il y a l'EPAC, la FSS, la FACH et j'en passe.
Monsieur le vice-recteur, force est aussi de constater, selon le rapport 2019 sur la recherche à l'UAC, que de nombreux laboratoires ne produisent pas de rapports d'activité. C'est à croire qu'ils ne font rien. Est-ce que dans ces réformes, vous avez prévu un mécanisme de suivi des activités des laboratoires?
Merci beaucoup pour cette question très importante. Effectivement, on est parti de 125 et présentement, lorsqu'on a lancé le processus pour la restructuration des labos, on a enregistré une soixantaine de dossiers. Et l'arrêté rectoral fixant la restructuration des laboratoires était clair. Et au niveau de cet arrêté, il y a des articles maintenant qui sont destinés à la bonne gouvernance au niveau de ces différents laboratoires-là. Effectivement, certains labos ne produisent pas de rapports. rapport. Même chaque année, le conseil scientifique les relance pour qu'ils envoient leur rapport. Mais je vous dis, sur les 120 et quelques laboratoires qu'on avait recensés, à peine on a une trentaine de rapports. Donc maintenant, parmi les modalités pour créer un laboratoire, le rapport d'activité est extrêmement important. Ça fait partie des critères. Donc présentement, ce qui est en train de se passer, puisque sur les 58, environ 27 des 58 maintenant ont reçu un avis favorable. Après plusieurs étapes de contrôle de visée et consort, il y a même eu une étape qui a consisté à aller visiter de façon physique les infrastructures qui existent, à visiter également aussi les équipements qui existent au niveau de ces différents laboratoires. Donc, à peine 27 respectent vraiment les règles. Et ces 27-là, nous allons leur donner leur autorisation de création. Maintenant, sur les 27, ce qui est prévu en plus, c'est que sur les 27, sur ces laboratoires qui auront l'autorisation, et après 5 ans, on va les réévaluer. S'ils sont performants, l'IAC va leur délivrer une accréditation. Ça veut dire que tous les programmes de financement que nous allons négocier avec nos partenaires, ce sont ces laboratoires accrédités qui vont nous accompagner. Donc cela suppose, pour être laboratoire accrédité, 1. Vous devez produire régulièrement vos rapports, respecter rigoureusement les conditions prévues au niveau de l'arrêté de création, et ces labos présentement maintenant seront sous les écoles doctorales. Tu sais, avant les laboratoires étaient sous les entités et les autorisations étaient délivrées à tout venant et consort. Maintenant, il y a une procédure. Le mode de gouvernance est bien prévu au niveau de cet arrêté de création. Et la gouvernance, c'est que vous avez un mandat. Le directeur de laboratoire a un mandat de 2 ans, renouvelable une seule fois. Et chaque fois, il faut une élection pour mettre de nouvelles équipes en place. Ce qu'on a assisté avant, c'est qu'il y a des directeurs de laboratoire à vie, ce qui n'est pas normal. Et c'est ça qui a motivé les collègues aussitôt devenus maîtres de conférences. Chacun cherche à avoir son laboratoire. C'est dû au fait de la faiblesse du mécanisme au niveau de la gouvernance, au niveau de ces labos. Donc, il y a des contraintes, des conditionnalités que chaque nouveau laboratoire, ils doivent respecter. Et puis après, le recteur peut sortir un autre acte pour déclasser un laboratoire. Ça peut venir. Donc maintenant, chaque laboratoire tel que nous sommes en train de le faire maintenant est sous contrôle. Ils ont obligation de déposer leur rapport au plus tard en janvier de la nouvelle année. Et également sur tout ce qui mène comme activité de recherche est sous le contrôle du vice-recteur chargé de la recherche. Je vais parler des projets et ainsi de suite. Aucun laboratoire maintenant ne pourra se lever à aller signer un projet au nom de toute l'université. Ça, ce n'est plus possible. Ces laboratoires doivent passer d'abord par les écoles doctorales. Si la signature du recteur est nécessaire, en apposant sa signature, ça veut dire qu'il y a d'autres conditions aussi qu'ils doivent remplir. Puisque dans nos programmes de recherche au niveau de l'équipe rectorale, on a prévu maintenant créer un service qui va centraliser tous les projets au niveau de l'IAC. Tous les projets des laboratoires seront sous le contrôle de ce service-là et on va accompagner tous ces chercheurs qui vont décrocher des projets à l'international. Nous allons les accompagner dans la mise en œuvre de ces différents projets en leur donnant des facilités institutionnelles, des facilités administratives aussi pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de ces différents projets. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Notre ambition est vraiment très grande pour notre université. Donc, voilà ce que nous prévoyons et je sais que les 27 qui ont été sélectionnés, ils ont présenté de très bons dossiers et puis vraiment et impeccable. Maintenant, sur les 24 là qui restent, l'équipe est toujours en train de travailler avec eux. Puis chaque fois, on leur fait des remarques sur leurs dossiers, ils reprennent, ils corrigent, ils reviennent. Je pense que si tout va bien, au moins à l'UAC, on aura une soixantaine de labos. De 125, on va tomber au moins d'une soixantaine qu'on pourra gérer. Maintenant, l'appui à ces labos, ce sont les labos reconnus par l'université. Puis il y a des ressources, nous avons prévu des ressources pour appuyer ces labos. Donc, c'est ces labos reconnus que nous allons accompagner. Maintenant, les autres laboratoires ont eu de tout faire pour se conformer à la règle. Maintenant, les laboratoires qui seront accrédités dans les années à venir, ce sont ces labos qui vont nous accompagner dans la recherche des gros financements pour l'université. On ne peut pas mettre beaucoup d'argent dans les mains de petites unités et qu'on sort. Ça n'arrange même pas l'université. Ce n'est pas crédible parce que s'il y a un problème, le recteur ne pourra pas répondre. Donc, voilà ce que nous envisageons pour les fois à venir. Et si vous êtes dans les parages, le 19 prochain, la commission fait une restitution. Les 27 laboratoires qui ont reçu officiellement l'avis favorable et qui auront leur arrêté de création seront officiellement connus au niveau de l'université. Cela ne veut pas dire qu'on ferme la porte aux autres. Nous les encourageons plutôt à tout faire pour se conformer comme les autres, pour que ça aille vite. Donc, on n'est pas des policiers, ça là. On n'est pas des policiers derrière, mais tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir améliorer l'organisation et puis la gouvernance au niveau du fonctionnement de tous ces laboratoires.
Quel mécanisme mettez-vous en place pour prévenir aussi les affinités et les guéguerres entre enseignants-chercheurs pour diverses raisons?
Merci beaucoup pour votre question qui est très sensible. Regardez-moi bien dans les yeux. Si vous me connaissez bien, vous saurez que moi, je ne suis pas dans les histoires de copinage. Sinon, je suis sûr qu'on n'allait pas me retenir pour occuper ce poste de vice-recteur. La plupart des collègues professeurs titulaires me connaissent à travers ma franchise et à travers mon franc-parler et également aussi ma vision par rapport à plein de choses. Je m'en vais même vous dire, il m'est arrivé de rejeter des thèses de doctorat de certains collègues qui sont amis vraiment très proches de moi. Entre amitié et professionnel, il ne faut pas mélanger les deux. Maintenant, au niveau des écoles doctorales et les laboratoires, je pense que la règle de gouvernance est claire au niveau de l'arrêté. La gouvernance au niveau des laboratoires se fait de façon conjointe avec le directeur de l'école doctorale. Même la gestion financière, c'est sous le couvert de l'école doctorale. La comptable de l'école doctorale appuie maintenant tous les laboratoires dans la gestion de leurs projets. Vous sortir une ressource, c'est pas avec l'accord du directeur de l'école doctorale. Et maintenant aussi, l'arrêté rectoral a été clair. La gouvernance, c'est un mandat de 2 ans. Après, renouvelable une seule fois. Après, le groupe se réunit encore pour élire un nouveau directeur. Ce n'est plus que, c'est la même personne qui est là, directeur à vie et comme ça, non. Moi, je pense qu'avec toutes ces dispositions prévues au niveau de l'arrêté, et également aussi, puisqu'ils ont déposé dans leurs différents dossiers des statuts et un règlement intérieur. Et dans les règlements intérieurs qu'ils ont élaborés, tout est clair en ce qui concerne la gouvernance. Maintenant, si une équipe va à l'encontre de son propre règlement intérieur, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, en ce qui concerne les grades et consorts, pour être directeur de laboratoire, c'est prévu. On a mis en jeu les grades. Un maître assistant peut être directeur de laboratoire pour commander des professeurs titulaires. Pas possible. Et également aussi, l'une des conditions pour pouvoir créer un laboratoire à l'UAC aujourd'hui, c'est au moins 5 membres permanents. Quand on dit membres permanents, ça veut dire que c'est des anciens chercheurs de l'UAC. Vous ne pouvez pas être de l'université de et venir être membre permanent d'un laboratoire à l'UAC, c'est pas possible. Vous ne pouvez être que membre associé. Donc, avec cette conditionnalité-là, il y a même les autres qui n'ont pas reçu l'avis favorable et consorts, c'est qu'ils n'ont pas pu réunir les 5. On sait que c'est difficile. Et tout cela, on l'a mis comme condition, ceci, pour obliger les gens à travailler ensemble. Les 125 écoles de laboratoire qu'on avait identifiées deviennent des unités. Maintenant, à 16 unités de se mettre ensemble pour créer vraiment un laboratoire. Donc, la structure des labos, maintenant, il y a plusieurs unités qui se mettent ensemble pour créer le laboratoire. Maintenant, la gouvernance au niveau des unités, c'est prévu dans les différents statuts. Moi, je pense que si chacun peut respecter ce qui a été écrit, il n'aura pas de problème en ce qui concerne les problèmes d'affinité dont vous êtes en train de parler. Et je pense que tant que moi je serai ici, à ce poste, jusqu'à la fin de mon mandat, vous n'entendrez jamais que le professeur Saïdou a fait de favoritisme pour un groupe donné qu'on sort. Prends l'engagement devant vous.
Nous sommes au thème de cet entretien. Professeur, dites-nous, que dire pour conclure cet entretien?
Mon dernier message, c'est que il faudrait qu'on soit appuyé. Dieu merci, on a, au niveau de l'arrêté sur le statut type des universités, il est prévu la mise en place d'un fonds national pour appuyer la recherche. Donc, nous attendons de tout cœur vraiment la mise en place de ce mécanisme-là de fonds pour appuyer la recherche. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons au niveau de nos laboratoires, c'est sur la base des initiatives personnelles de nos collègues. Imaginez, vous voyez, lorsqu'on a lancé en 2018 les fonds compétitifs, on a eu près de 124 dossiers. Et tous les dossiers étaient très bons, de très bons projets. Mais on n'avait pas assez de ressources pour financer les 100 et quelques. On n'a pu financer que 16. Le reste là, c'est où? C'est dans les tiroirs. Les collègues attendent. Et chaque fois, quand des opportunités se présentent à l'international à travers les appels à projets, qu'on soit de l'Union européenne, l'Union africaine, tout ça là, ils en profitent ceci pour faire chose. Mais quand ce sont des appels Union européenne, Union africaine, sachez que vous n'êtes plus détenteur des résultats de la recherche. Le pays n'est plus responsable, n'a plus le droit d'auteur de ce qui se fait comme recherche. Et ça, c'est très dangereux pour nous, pour les pays africains. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les pays européens, américains, qu'on soit, n'ont plus d'idées. Ils se rabattent sur nous pour venir recueillir nos idées et en faire de grands programmes chez eux. Et quand ils envoient ces programmes, nous, on a à peine le 10e, le reste des fonds, c'est chez eux là-bas. Hein? Le reste des fonds, c'est chez eux. Ils envoient tout là-bas. Ils viennent prendre encore nos idées et ils s'approprient des résultats de nos recherches. Et c'est pour cela, moi, dans ma thèse de doctorat, je l'ai dit, un pays qui n'arrive pas à financer sa recherche n'est pas indépendant. Si nous voulons être indépendants, nous devons être en mesure.